Bonsoir à tous. Le moment de vérité pour notre planète. Le président britannique de la COP26 veut une adoption ce soir de la déclaration finale. Les discussions se poursuivent. Il n'y a pas d'opposition frontale au texte. Une réunion plénière a été convoquée. Nous serons à Glasgow dans un instant. Hommage silencieux et recueillement lors des cérémonies du 13 novembre. Des cérémonies hautement symboliques en plein procès des attentats. Dans ce journal également, la tension toujours très vive à la frontière entre l'Europe et la Biélorussie, et Moscou affirme ne rien avoir dans cette crise migratoire. L'Europe et les Pays-Bas face au regain de l'épidémie de Covid, le confinement partiel annoncé hier à La Haye a du mal à passer chez les Néerlandais. France-Kazakhstan en football ce soir au Parc des Princes. Une victoire et l'équipe de France est qualifiée pour le Mondial au Qatar. Le temps pour demain, nouvelle dégradation en Méditerranée, nuages et pluie partout ailleurs. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
Tractation de dernière minute bien difficile à Glasgow pour arriver à un compromis. La COP26 devait s'achever hier. La présidence britannique espère finalement boucler la conférence ce soir. Le projet de déclaration finale a été soumis aux délégués des quelques 200 pays participants à cette COP et il n'y a pas d'opposition frontale. En direct de Glasgow, on retrouve notre envoyé spécial Sandy Dauphin. Bonsoir Sandy.
Bonsoir.
Le président britannique de cette COP a parlé de moment de vérité pour notre planète et il a convoqué une séance plénière.
Oui, Alok Sharma veut absolument faire adopter cette déclaration finale ce soir et sauf surprise, cela devrait être le cas. La séance plénière de fin de COP doit démarrer dans les minutes qui viennent. Cet après-midi, les délégués ont donné leur avis sur ce texte de compromis. On a senti plutôt une adhésion, ce n'est pas forcément le texte dont rêvaient certains pays, mais il n'y a pas eu d'opposition frontale. Les États-Unis, l'Europe, le Japon ont défendu le texte. La Chine dit qu'il n'est pas parfait mais s'en contente. Finalement, c'est l'Inde qui a fait entendre une voix un peu plus critique. New Delhi revendique son droit à un usage responsable des énergies fossiles, alors que le texte parle pour la première fois de les limiter un peu.
Comment peut-on attendre des pays en développement qui promettent de sortir du charbon et des subventions aux énergies fossiles quand nous sommes toujours confrontés à la question du développement et de l'éradication de la pauvreté ?
Le représentant de Tuvalu, archipel du Pacifique, retient que la COP26 donne un message d'espoir. Son collègue européen implore les derniers réticents à adopter le texte. Frans Timmermans.
Je me demande si dans ce marathon, nous ne risquons pas de trébucher à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Mais pour l'amour de Dieu, ne tuez pas ce moment. Je vous implore, s'il vous plaît, adoptez ce texte pour que nous puissions apporter de l'espoir à nos enfants et à nos petits-enfants.
Cet après-midi, l'émissaire américain pour le climat, John Kerry, très présent à cette COP, a passé beaucoup de temps à discuter avec son homologue chinois devant les caméras, une façon de montrer au monde que malgré leurs différences, les États-Unis et la Chine peuvent travailler ensemble sur le climat. Au moment où je vous parle, Frédéric, c'est l'effervescence dans cette grande salle de la COP26 délégués se prennent en photo sur l'estrade, ils discutent entre eux, ils s'applaudissent. Le coup de marteau final de cette COP26 n'est pas bien loin.
Sandy Dauphin en direct de Glasgow avec Martin Troadec pour les moyens techniques. Merci à vous deux. Autre temps fort de l'actualité aujourd'hui, les hommages silencieux et le recueillement lors des commémorations du 13 novembre. Aujourd'hui, à Saint-Denis et à Paris, 6 ans après l'horreur des attentats, les cérémonies ont cette année en plein procès des attentats du 13 novembre une résonance toute particulière pour les victimes et pour leurs proches. Georges Saline, qui a perdu sa fille Lola au Bataclan, explique qu'il était particulièrement important pour lui d'être là aujourd'hui.
Ça remue des choses douloureuses, c'est sûr. Ça fait du bien de rencontrer la solidarité des autres, la fraternité des autres, pour entretenir la vigilance par rapport au fléau du terrorisme, la mémoire de nos enfants. C'est les premières commémorations qui peuvent se tenir normalement après la crise du Covid qui avait empêché les cérémonies l'an dernier. Bien sûr, ça nous avait manqué. Et puis, c'est effectivement dans le contexte du procès qui change beaucoup de choses, parce que le procès a renforcé en fait la connaissance mutuelle des victimes. On connaît mieux nos histoires finalement, on se connaît mieux les uns les autres et la solidarité entre nous a été renforcée.
Georges Salines avec Mathilde Bouquerel. La crise en Biélorussie marquée aujourd'hui par plusieurs déclarations, notamment en Turquie et en Russie, alors que le sort des migrants à la frontière polonaise côté biélorusse n'évolue guère. Plusieurs milliers de personnes sont toujours bloquées dans l'espoir de rentrer en Europe. La crise migratoire s'est déplacée sur le plan diplomatique et alimente les débats. Ce matin, Russes et Turcs ont nié toute responsabilité dans le drame humanitaire qui se joue en ce moment. Nathanaël Charbonnier.
C'est le président Vladimir Poutine qui s'est fait entendre le premier dans une interview. Il a redit que son pays n'avait rien à voir dans cette affaire, contrairement à ce que certaines déclarations occidentales pouvaient laisser penser. Vladimir Poutine a expliqué que les dirigeants européens devaient s'adresser directement au président Bélarusse pour régler cette affaire de migrants. Toujours dans son entretien, Vladimir Poutine s'est inquiété de la présence des États-Unis en mer Noire. Pour lui, il s'agit d'un sérieux défi puisqu'il a repéré la progression de bateaux et d'avions dans la région. Vladimir Poutine a parlé en premier, mais il a été rejoint un peu plus tard par la Turquie. Elle estime que blâmer son pays dans la crise migratoire est mal avisé et déplacé. Elle explique que Turkish Airlines a pris les mesures nécessaires pour stopper et refouler les migrants qui souhaitent se rendre en Biélorussie de façon illégale. Une mise au point en direction de l'Union européenne qui envisage de sanctionner tous ceux qui participeraient à ce trafic de migrants dans l'Est de l'Europe.
Au Yémen, la guerre meurtrière se poursuit. La coalition dirigée par l'Arabie Saoudite affirme avoir tué aujourd'hui 186 rebelles houthis lors de nouveaux raids aériens. La coalition affirme quasi quotidiennement depuis le mois dernier infliger de lourdes pertes aux rebelles, des chiffres qui ne peuvent pas être vérifiés. En 7 ans, la guerre a plongé le Yémen dans l'un des pires drames humanitaires au monde, selon l'ONU. En Europe, autre sujet d'inquiétude, la reprise de l'épidémie de coronavirus qui flambe dans certains pays. L'Autriche veut reconfiner les personnes vaccinées, confiner les personnes vaccinées. Angela Merkel en Allemagne a exhorté ce matin les personnes non vaccinées à reconsidérer leur choix. Et hier soir, les Pays-Bas ont annoncé un confinement partiel pour 3 semaines au moins. Des restrictions sanitaires qui ont du mal à passer chez une partie des Néerlandais et qui ont provoqué de vives tensions. Sur place à La Haye, Antoine Moutot.
Dans une petite pâtisserie du Turfmarkt, une grande artère du centre-ville de La Haye, Maria ne décolère pas.
C'est scandaleux, car les restaurateurs n'ont rien à voir avec tout ça. C'est déjà très difficile pour eux, et maintenant ils doivent en plus faire face à des saccages.
Ce matin, cette vendeuse a aidé le propriétaire du café d'à côté à balayer les morceaux de vitres brisés et ramasser les pavés jetés la veille. C'est à quelques mètres d'ici, dans une salle du ministère de la Justice, que le Premier ministre Mark Rutte a annoncé hier le retour de nombreuses mesures sanitaires. En signe de protestation, un groupe d'opposants s'était réuni à l'entrée du bâtiment, ont suivi des heurts avec la police. Si Maria dénonce la violence, elle comprend quand même en partie leur mécontentement.
Je suis assez partagée. D'un côté, je comprends qu'il faille faire ça pour désengorger les hôpitaux. Mais en même temps, les gens qui travaillent dans les commerces et la restauration ont déjà tellement de problèmes financiers. Comment vont-ils tenir ?
Maintenant que le Premier ministre demande aux Néerlandais de travailler chez eux, Maria craint pour sa pâtisserie située dans un quartier d'affaires. La Haye, Antoine Moutot, France Inter.
France Inter. Frédéric Barrère.
Le Made in France est devenu l'étiquette de tous les politiques à 5 mois de la présidentielle. Les prétendants à l'Élysée se succèdent au salon du Made in France à Paris, porte de Versailles. Après Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, Arnaud Montebourg et Jean-Luc Mélenchon hier, l'écologiste Yannick Jadot est venu cet après-midi pour défendre le Made in France et pour sa première campagne présidentielle comme candidat. Yannick Jadot a fait des promesses pour que le fabriqué en France devienne la règle. Laurence Perron.
Yannick Jadot devant une batterie de casseroles garantie à vie.
C'est génial.
Yannick Jadot devant une pompe à chaleur.
Non, c'est super.
Yannick Jadot sur un scooter.
Bon, c'est génial. Bravo.
Là, il précise que le dernier qu'on a vu à scooter a été élu président, mais qu'il est mal fini.
Allez, s'il vous plaît, merci, c'est super.
En réalité, lui qui bat la campagne depuis près d'un an, a visité les usines de ses entrepreneurs du Made in France, comme ce fabricant de jeans normands auquel il explique sa vision économique.
On ne peut pas être simplement sur des marchés de niche.
On n'est pas un marché de niche parce qu'on est 70 millions, ouais, et il ne faut pas les décevoir.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que votre modèle, il doit devenir le modèle majoritaire dans notre pays. Et c'est là qu'on a aussi une responsabilité pour que vous ne soyez pas seul face aux consommateurs contre le reste du monde. Ça ne peut pas marcher, ça. Et nous, mes collègues suédois, ont obtenu la division par 2 de la TVA sur la réparation des vêtements. Vous voyez, tout ça pour favoriser un mode de consommation et qu'on a aussi une responsabilité, nous, politiques, pour travailler là-dessus.
Il salue d'un dernier « c'est génial », rattrapé par un monsieur qui l'interpelle.
Ça va et vous ?
Ouais. Et pour l'unité de gauche, qu'est-ce que vous en faites ?
Ouais, on va faire du « Made in France » aussi.
Ouais, non, mais c'est
on
vrai,
va
il faut... Ouais, ouais, parce qu'il faut que... Hein ?
Il faut que... Ah, ouais.
Là, pour le « Made in France » de l'unité à gauche, le bon génie n'est sans doute pas encore né.
Un reportage de Laurence Perron. Le raisin devenu le nerf d'une guerre entre vignerons et négociants en Champagne. Les petits producteurs de Champagne sont de moins en moins nombreux, moins de ventes à la propriété, plus d'accords passés avec des négociants pour ces producteurs aux exploitations de 1 à 2 hectares et qui, trop petits, ne peuvent pas compter sur l'exportation. Le prix attractif du raisin et l'évolution du marché les poussent à se contenter de la culture de la vigne et se limiter à la seule vente du raisin. Une mauvaise nouvelle pour les consommateurs, toujours en quête du meilleur prix à la bouteille. Explication, Maxime Deps.
C'est une tendance de fond depuis 10 ans et qui s'accentue, reconnaît Maxime Toubard, coprésident de l'interprofession du champagne.
On a perdu environ 800 vendeurs de champagne. Donc à un moment donné, ça préoccupe parce que ça concentre aussi la vente de champagne sur les grandes maisons.
Plutôt que de poursuivre la production, ce qui demande beaucoup de moyens, ces petits vignerons préfèrent s'en tenir aujourd'hui à la culture de la vigne et la vente de leurs raisins. Plus facile, parfois plus rentable, au grand bonheur des grandes maisons à l'affût.
Ces grandes maisons sont aujourd'hui plutôt positionnées à l'export, donc avec des volumes importants, donc elles ont besoin de raisins. Et donc elles essaient au maximum de capter de l'approvisionnement, donc de capter du raisin, pour pouvoir continuer à vendre des bouteilles de plus en plus loin et de plus en plus cher. Donc on a en effet une petite guerre de l'approvisionnement en champagne. La champagne, c'est un monde qui est fermé, 35 000 hectares. Donc il est évident qu'il y a dans certains secteurs un peu un surenchérissement du kilo de raisins parce qu'on veut, on se bagarre des raisins parce que derrière, celui qui a des raisins, il peut vendre des bouteilles.
L'interprofession du champagne qui en appelle aux récoltants pour qu'ils n'abandonnent pas afin de continuer à promouvoir le côté artisan, authentique et terroir du vignoble champenois.
Le rendez-vous football ce soir et l'équipe de France à un match du Qatar. Les Bleus reçoivent au Parc des Princes le Kazakhstan en match de qualification pour la Coupe du Monde 2022 et en cas de victoire, l'équipe de France ira donc au Qatar défendre son titre de championne du monde. En direct du Parc des Princes, on retrouve Alexandre Vaux. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Frédéric.
Ce match est donc synonyme de qualification, mais avant le coup d'envoi, un hommage sera rendu aux victimes des attentats du 13 novembre.
Oui, vous en parliez dans le journal. 6 ans, jour pour jour, après les attentats de Paris et Saint-Denis, au pied du Stade de France d'ailleurs, hein, un soir de match, une minute de silence sera respectée avant le coup d'envoi. Les joueurs porteront un brassard spécial et une banderole sera déployée un quart d'heure après le coup d'envoi par une partie des supporters des Bleus en hommage aux 131 victimes. Il faudra composer avec ce contexte, Frédéric, se méfier aussi parce que les Finlandais ont gagné cet après-midi en Bosnie 3-1 et sont revenus un point des Bleus, leader au classement du groupe. L'équipe de France privée en plus de Varane, Kimpembe, Pogba, mais avec Benzema, Griezmann et Mbappé. Si les Bleus ne gagnent pas, ils iront jouer leur ticket pour le Qatar mardi en Finlande lors du dernier match. On espère s'éviter ça. On peut être confiant ce soir puisque les Bleus viennent de remporter la Ligue des Nations. Ils ont retrouvé des couleurs et puis ils reçoivent ce soir la 125e nation mondiale. La route vers une 7e participation d'affilée à la Coupe du Monde est bien ouverte ce soir dans un Parc des Princes annoncé à guichet fermé.
Alexandre Vaux, en direct du Parc des Princes, merci. Coup d'envoi à 20h45. Et puis en rugby, cet après-midi, l'équipe de France féminine a régalé et surclassé 38-13. La Nouvelle-Zélande, championne du monde en titre. Le temps pour demain.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
Du changement demain pour le quart sud-est du pays, notamment entre la région PACA et la Corse, avec la mise en place d'un temps instable et pluvieux orageux, avec de la neige en fin de journée sur les Alpes frontalières à partir de 1500 mètres, des précipitations importantes sur l'est de la Corse dans la nuit de dimanche à lundi. La neige sera également au rendez-vous à moyenne altitude sur les Pyrénées. Sur le reste du pays, peu d'évolution à prévoir par rapport à aujourd'hui, avec le maintien d'une ambiance globalement maussade et une probabilité d'un ciel un peu plus sec l'après-midi du nord de la Seine au Grand Est vers le Cotentin, la Bretagne et le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Dans des températures de saison, elles vont évoluer entre 4 et 8 degrés en début de journée jusqu'à 12 sur les côtes. L'après-midi, les valeurs en légère baisse sur les régions méridionales vont afficher 11 à 15 du Limousin aux Pyrénées, 16 à 18 autour de la Méditerranée. Et comme aujourd'hui, il est prévu une moyenne de 10 degrés dans l'Est et le Centre-Est et 11 à 14 du nord de la Loire à la Belgique.
Jean-Michel Golinski de Météo France.